Oui, bonjour, c'est Sébastien. C'est pour vous dire qu'il y a une pandémie sur l'emploi, que ce serait bien que les gens portent des masques avec un cri acidique dessus. Merci, au revoir, bonne journée.
Auditeurs modestes et géniaux de Poitiers et environ, ce message pour vous inviter au prochain repère pictavien, là-bas si j'y suis, du mercredi 6 mai. Nous ferons entre autres un point sur la réforme des universités, en présence d'universitaires en lutte de la fac de Poitiers. Retrouvez-nous mercredi à 20h au café Aminima, Grand Rue, à Poitiers, bien sûr. Merci.
Bon, alors c'est Jean-Claude de Secondigny. Voilà, alors juste avant d'écouter là-bas, si j'y suis, j'ai entendu M. Frédéric Lefebvre, alors qui nous disait que c'était quand même pas normal qu'une petite minorité d'étudiants bloque toutes les facultés et qu'il serait bon qu'on commence à porter plainte contre ces gens-là. Bon, il a tort, il a raison, je m'en fous, à la limite. Mais si on part de ce principe, la petite minorité de patrons bloque les entreprises en les fermant, ceux-là, faut les foutre en tôle aussi. Et puis la grosse majorité de salariés qui retient dans l'entreprise la petite minorité de patrons, selon le même principe, sûrement qu'ils ont raison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À ciao, bonsoir.
Salut, salut Mermet. Salut à tous les ONG.
Eh, dis donc, Fifi, mercredi, c'est pas le jour du repère de Métain ?
Bah oui, mon gars Gérard. Heureusement que je t'ai pas attendu.
Ah bon ? T'as déjà préparé quelque chose ?
Bah, je veux. Il y a les gars de l'entreprise, Franck et Pignard, qui viennent nous parler du naufrage du décolletage dans la vallée de l'Arve.
Ah, le décolletage, le truc qui rend jolies les filles ?
Mais non, imbécile. Le décolletage, c'est un des fleurons de la mécanique de haute précision, une tradition dans la vallée. L'horlogerie, l'automobile, les fusées.
Ah ouais ? Et c'est quoi leur problème à ces gens-là ? Ils doivent gagner plein de thunes.
Tu parles, mon Gérard. Avec les...
Les hedge funds.
Ouais, c'est ça. Ben les ultralibéraux de la finance, les barons UMP de la Haute-Savoie, ils sont en train de toucher le fond.
Ah oui, ça va être vachement sérieux alors.
Mais toujours dans la bonne humeur et autour d'une petite mousse.
Mercredi 6 mai à 19h au Dercim de Métay,
qu'on se le dise et le répète.
Merci Daniel de la part des camarades de Sony pour ton excellente émission de hier, Antoine. Allez, au revoir.
Oui, salut Daniel, salut les AMG, pour vous dire que le prochain repère du 14e aura lieu le dimanche 10 mai, au Magique, 42 rue de Gergovie, métro Plaisance, à 20h. Beaucoup de sujets brûlants à parler, on verra lesquels aborder le 10. Salut Daniel, salut à tous.
Oui, bonjour, c'est Bruno de la Tour du Pin. Je viens d'écouter là les infos sur la 2 où ils viennent d'expliquer qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui se montaient en scope, les entreprises qui sont en train de tomber, abandonnées par leurs patrons parce que pas assez rentables. Les ouvriers rachètent, 5 sur 6 se tiennent au bout de 6 ans, même certaines multiplient le chiffre d'affaires, ça marche très très bien. Donc je le redis, voilà, virez vos patrons, rachetez vos entreprises, vous avez un savoir-faire. On a tous un savoir-faire dans notre entreprise, on a une motivation, le patron il veut plus de nous, qui se rassure, on veut plus de lui. Reprenez l'entreprise, mettez des billes de temps, battez-vous, utilisez votre savoir-faire, et vous verrez, ça va glisser tout seul, on partagera et on fera une société beaucoup plus linéaire. Voilà, je vous embrasse tous, courage, et moi je vous dis que ça peut se faire, ça peut se faire. Nous on est en train de le faire, faites-le. Allez, salut à tous.
Oui, bonjour Daniel, bonjour ami Avray. Le café repère de là-bas, si je suis du Havre, bah vous convie mercredi prochain, mercredi 6 mai à 18h, au Kangourou, 163 rue Victor Hugo, pour une conférence débat dont le thème est « Pourquoi Sarkozy veut-il se débarrasser du juge d'instruction ?» Cette conférence sera animée par Marc Edrich, juge d'instruction, délégué à vrai du syndicat de la magistrature. Voilà, nous vous espérons nombreux et donc à mercredi. Allez, au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour aux AMG, bonjour à tous. Je vous laisse un petit message là pour soutenir eh bien les personnels de prison qui font grève pour dénoncer eh bien leur situation de travail et la surcharge des prisons. On peut appeler ça une surcharge. C'est un combat qu'ils mènent pour eux et pour les droits de l'homme. Voilà, donc eh bien moi je les soutiens et va continuer. La seule réponse qu'on puisse donner à ces gens aujourd'hui, c'est des coups de matraque, comme on a vu hier sur la prison de Fleury-Mérogis. On frappe, on gagne. gaz, la politique de Sarkozy est vraiment lamentable, et j'espère vraiment qu'il va nous quitter dans les quelques années qui arrivent. Voilà, allez, courage à tous, bye bye.
Eh ben ouais, coup de bâton sur les matons, et ils sont 4000 devant les 120 des 194 établissements pénitentiaires, les gardiens de prison et le personnel pénitentiaire à se mobiliser, pas seulement sur des revendications de statut ou de salaire, mais sur la situation générale des belles prisons françaises. Ils sont pas en grève parce qu'ils n'ont pas le droit de se mettre en grève, mais ça ne les empêche pas de se manifester, de manifester et de se prendre des petits coups de bâton sur le coin du museau. Avec 63 351 détenus pour 52 000 places, la France est en train de battre son propre record d'enfermement, une augmentation de 30% du nombre des détenus en 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'état sanitaire des détenus dans les prisons françaises. 40,3% des détenus souffrent de troubles psychiatriques, syndrome dépressif. Dépendance aux substances, près de 40%. Troubles psychotiques, 21,4%. Surpopulation totale, 124%. C'est quelques chiffres qui donnent une idée de la situation générale face à laquelle, eh bien, se trouvent bien démunis et bien désarmés les gardiens de prison. Voilà pourquoi on retrouve Luc Rodi. Qui c'est Luc Rodi? Eh ben, c'est un surveillant à la maison d'arrêt d'Amiens que nous avions rencontré déjà avec François Ruffin. Et vous allez voir que, par hasard, en parlant avec lui, on va faire d'autres rencontres et d'autres, disons, confrontations que vous pouvez d'ores et déjà imaginer. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
AMG de Bressuire, bonjour. En raison du 1er mai et du 8 mai, la rencontre du mois de mai à Bressuire aura lieu vendredi 15 mai à 19h30 autour d'une saucissonnade, comme d'hab, au bar L'Appartement, près de la mairie de Bressuire. Salut.
Allô, Daniel?
Allô, Daniel?
Mais dis Daniel par-ci, dis Daniel par-là, mais qui c'est ce Daniel? Qui veut qu'on laisse des messages, qui rappelle jamais?
Ah oui, c'est Daniel Mermet, celui qui nous dit « Va voir là-bas si j'y suis ».
Eh bien nous, au repère de Metz, mademoiselle, on l'a écouté, on est parti voir ce qui se passe dans les autres repères. 140 repères en France, à l'étranger, ça fait quand même un sacré paquet de gens qui résistent à la pensée unique ambiante. On mail, on téléphone, on boîte vocalise, afin de sonder les animateurs des repères ainsi que les patrons de bar. Si toi aussi tu veux nous parler de ton repère, appelle-nous au 03 55 00 01 01. Et on se fera un plaisir de ne pas te rappeler, mais de diffuser ton message en début de notre repère mercredi 6 à 18h. Voilà, car chez nous, c'est le 6 à 6h du soir depuis 3 ans. Et Daniel, ce serait bien que tu fasses une émission sur ces différents repères, ça nous faciliterait le boulot. Allez, salut Daniel.
Tof, de Metz.
Salut à tous, c'est Amandine de Haute-Vienne. Message aux AMG de Limoges et des environs. Le prochain repère de Limoges, c'est demain, mercredi 6 mai, à 18h30, au Woodstock Boogie Bar, 18 avenue Montjovi. On projettera le film « Déchets nucléaires en Limousin » avec un intervenant du CLAD, le collectif Limousin Anti-Déchets. Voilà, donc à mercredi. Bonne continuation à toute l'équipe et à bientôt.
Celle que j'aimais. Celle que j'aimais n'a jamais existé. Parfois j'ai cru la voir, j'ai vu passer son ombre quand elle disparaissait. Je l'ai cru quelquefois passer tout près de moi. Et je me retournais, je la cherchais des yeux, mais elle n'était pas là. Celle que j'aimais n'a jamais existé, ou si peu, ou par petits morceaux, par extraits si l'on veut. Une voix par moment entendue ci ou là, un parfum qui passait ou un regard croisé, un mouvement, une attitude, un geste, s'arrangeant les cheveux dans un geste gracieux, ou les jambes croisées, le pied cambré, à la terrasse d'un café. Allongé, à la plage. Non, sur la pelouse d'un jardin public. sur un lit, nu, à plat ventre. Le sein gauche ou le droit, je ne sais plus. Je ne sais plus de quel côté j'arrivais. Je l'ai vu étendu sur un lit, nu, à plat ventre, le sein aplati par le poids de sa pose, répartissant son volume différemment et reprenant sa forme quand elle se soulevait pour attraper sa montre peut-être, éteindre le réveil. Je l'ai vue parfois nue par la porte entrouverte, et puis lorsque j'entrais, je ne la voyais plus, elle s'enfuyait toujours. Je l'ai vue s'habiller et se déshabiller. Je l'ai vue endormir les cheveux sur sa joue glissant jusqu'à son nez. Je l'ai vue danser. Et il semblait alors que la vie tout entière se logeait dans ce corps et le faisait bouger. Je l'ai vue le visage appuyé contre la vitre, dans l'autobus. En réalité, je n'ai vu que son reflet. Je l'ai vue bien souvent, mais ne l'ai jamais vue. Elle n'est jamais là, mais elle est là, toujours. Elle est là, je la sens. Et je suis toujours ivre de sa présence, absence. Je la cherche toujours, mais ne la trouve pas. Quand j'essaie de me la rappeler, aucun souvenir précis ne me vient. J'ai fait les brocanteurs, les musées, les salles obscures. Parcouru des magazines et suis souvent tombé sur de bonnes copies, mais ce n'était pas elle. Ce n'est jamais elle, vous comprenez ? Même lorsque je l'étreignais, il arrivait toujours un moment où elle changeait d'air. Parfois, sur les boulevards, je la saisissais par la taille et la serrais amoureusement contre moi. Et puis voilà-t-il pas qu'elle nous croisait, seule ou au bras de quelqu'un ? Et ça me rend fou de ne pas la trouver. Ça me rend fou parce que je ne peux pas vivre sans elle. Je ne pense qu'à elle, je ne pense qu'à elle, je ne pense qu'à elle. Quand je l'aurai enfin trouvée, je voudrais que la vie s'arrête, mais sans s'arrêter. Qu'elle continue, mais sans rien changer. La femme que j'aimais n'a jamais existé. Voilà, c'est tout.
Je regarde s'ils sont présents, je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence, en permanence, en permanence.
Il y a quelque temps, il y a même un directeur de l'administration pénitentiaire d'un établissement qui l'avait signalé que dans son établissement, il y avait 25% qui devraient être gérés par la psychiatrie plutôt qu'en milieu carcéral. Mais maintenant, la facilité, on met tout le monde en prison.
On punit les gens par le temps, en les bloquant, en leur faisant que le temps s'arrête pour eux dans la prison. Mais à côté de ça, tout s'arrête.
La nuit, c'est le moment où les gens, les détenus, bon, ben, on essaie de faire le moins de bruit possible, et puis on les surprend. Il y en a beaucoup qu'on croit qu'ils sont si durs que ça, de caractère, et puis bon, ben, ils pleurent la nuit. Hein. On en surprend énormément. Hein. Et il y a des moments, même les collègues, ils disent, t'as vu, celui-ci, aujourd'hui, il m'a fait une pantomime pas possible, et puis là, ce soir, il pleure.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, les enfermés, désenfermés.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors je suis à peu près à 200 mètres de la vol d'oiseau, puis bon, ça fait 25 ans qu'on habite dans le quartier.
On voit, vous habitez une petite maison qui est juste devant une grande tour, quoi, en fait.
Ouais, c'est les abords du quartier Nord. Nous, on est juste à la frontière du quartier Nord.
Et alors, de l'autre côté, on a vu sur la maison d'arrêt ou...
Ouais, on en voit un petit bout, mais pas plus que ça. On entend, l'été, on entend les bruits, mais c'est tout.
Je vais vous faire voir. Ah, c'est bon. Là, on est dans le grenier, en fait, qui est aménagé.
C'est l'emplacement où je fais tous mes tracts, mais tous les documents nécessaires pour dénoncer les conditions de travail, ainsi de suite. De mon bureau, ben, je vois la maison d'arrêt d'Amiens, je vois le quatrième étage, et puis les cheminées, par-dessus les toits.
Une vue imprenable depuis son grenier, Luc Rodi. Une vue imprenable, presque un... Comment on pourrait appeler ça? Un mirador syndical. Oui, syndical. Il est syndicaliste. Luc Rodi, il est surveillant à la prison d'Amiens et il habite à 200 mètres de la maison d'arrêt. juste à la frontière avec le quartier populaire d'Amiens Nord. Et on va voir que c'est pas indifférent qu'il habite là, c'est pas indifférent parce que effectivement entre les gardiens et les gardés, entre les surveillants et les surveillés, il y a souvent à peu près la même origine sociale, même si chômage aidant, les surveillants de prison sont de plus en plus des gens diplômés. Deux tiers d'entre eux possèdent le bac, un tiers un diplôme d'enseignement supérieur. Et le personnel pénitentiaire en France, c'est 23 000 personnes. 23 000 personnes qui, au fond, ont les mains dans le cambouis de cette humiliation qu'est la prison. La prison, une humiliation pour la République. Vous vous souvenez de ce titre qui avait fait un certain bruit il y a quelques années? Eh bien, c'était le titre d'un rapport du Sénat. Les sénateurs, soudain, s'étaient réveillés, suite notamment à la publication du fameux livre de Véronique Vasseur sur l'état de santé à la prison de la santé où elle était médecin. Et on s'était quand même un peu étonné, un peu indigné de telles conditions et de ces traitements inhumains et dégradants, c'est les termes exacts utilisés pour qualifier la situation d'un certain nombre de détenus par le CPT, le Comité Européen contre la Torture. Alors on s'était beaucoup ému de tout cela, et puis l'humiliation a dû augmenter puisque la population pénale a augmenter, punir les pauvres, pénaliser la misère. Vous connaissez la chanson. 85% de la population pénitentiaire vient des milieux déshérités, selon l'OIP, selon l'Observatoire international des prisons. 55% des entrants en prison souffrent d'au moins un trouble psychiatrique. Parmi d'autres, alors vous vous dites, oh là 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 là, on écoute la basse et j'y suis, je vois très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre la défense de l'assassin des vieilles dames et des violeurs d'enfants. Pas du tout, pas du tout. Ce qu'on observe de tous les côtés, c'est que l'utopie de la prison, l'utopie parce que c'en est une, ne marche pas ni pour la société, ni pour les victimes, ni pour les détenus. La société n'est pas plus en sécurité quand les prisons débordent. Les victimes ne sont pas plus consolées en sachant que les coupables pourrissent à petit feu ou bien deviennent des fauves humains dans ces prisons. Et puis, les détenus, c'est le plus connu, ne sont ni réhabilités ni réinsérés. Tout ça, on le sait, mais on l'oublie, et puis on s'en fout, et puis tout d'un coup, ça revient en première ligne des médias, mais en première ligne de front, il y a les gardiens de prison. Et Luc Rodi en fait partie. Les gardiens de prison sont pas très fiers de faire leur boulot, on les comprend. Je pense qu'il y a assez peu d'enfants pour dire « quand je serai grand, je voudrais être maton ». D'abord, on lui met une baffe, on lui dit « on dit pas maton, on dit gardien, on dit surveillant ». Mais c'est vrai que c'est pas très tentant. Quand un surveillant ou un gardien drague, il dit « moi, je travaille pour le ministère de la Justice », et si on lui demande des précisions, il va montrer sa carte professionnelle, mais en mettant le doigt là où il est indiqué surveillant pénitentiaire. C'est un métier dont on n'est pas très fier, et c'est un métier aussi où les gens ont l'habitude de se taire. Ils sont dans un enfermement, ils sont enfermés parmi les enfermés. Donc le discours, en parler de l'intérieur avec une expérience, un vécu, ce vécu-là, c'est assez rare pour qu'on passe une heure entière avec Luc Rodi, donc que François Ruffin a rencontré à Amiens. C'est là-bas que j'y suis.
Tolard enterré bien à l'ombre, tourne la ronde des prisonniers au trou, mais dans le pire des tombes, ce mort, c'est mal vu de le pleurer. Et y a son homme qui reste là, qu'on laisse enfermé dans la rue, genre l'orphelin qu'on console pas. Son père est déjà perdu de vue. Si les absents ont toujours tort, du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts qui ont un père qui a pas eu raison. Contre un père qui a pas eu raison. Ça traîne en bande, ça pleure tout seul, ça joue au dur, le cœur en cavale, ça crie, ça hurle, ça grogne, ça gueule, bref, ça a l'air d'un gosse normal. En attendant de rentrer en classe, on lui a appris qu'il faut jouer, faire la course au fond d'une impasse, et bien profiter de sa récré. Si les absents ont toujours tort, du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts qui ont un père qui a pas eu raison. Contre un père qui a pas eu raison. Bien au creux de sa plus mauvaise note, il coince la bulle de ses zéros, il se tourne les pouces dans ses menottes, il frime un max mais se sent trop. Il fait le merde de toutes ses forces, à croire qu'il veut se faire jeter la pierre, mais on oublie que dans le cœur de ce gosse, y a déjà un casier judiciaire. Si les absents ont toujours tort, du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts qui ont un père qui a pas eu raison. Contre un père qui a pas eu raison. Alors il reste compromis, avec un cœur qui tourne en rond, qui sait plus trop sur qui cogner, sur les autres ou l'autre, en prison. Qui est presque mort, que c'est plus rien, qui est enterré sans enterrement. C'est pas gagné d'être orphelin, avec un père encore vivant. Si les absents ont toujours tort, du fond de la cour de leur prison, c'est la ronde des enfants des morts, qui ont un père qui a pas eu raison.
Il y a 700 détenus à Amiens?
Oui, parfois même plus, on a connu un peu plus.
700 détenus pour combien de places?
Normalement, c'est pour 300 places.
700 détenus pour 300 places, quelles sont les conditions d'hébergement?
Ben, disons que les conditions d'hébergement, c'est assez triste, hein, parce que bon, il y a promiscuité. Moi, j'ai connu à Amiens une période où il n'y avait plus de lits, alors on est obligé de rajouter des matelas par terre. Mais bon, à la santé, j'ai connu plus souvent.
Donc là, on passe le long de la maison d'arrêt d'Amiens. Sur un petit chemin sur le côté. Donc il y a un mur de briques rouges. Et parfois là on trouve des boîtes de médicaments le long de cette...
Alors ce passage-là, bon, nous les surveillants, bon, bien souvent on voit des missiles arriver. Dedans il y a des médicaments, il y a des produits stupéfiants.
C'est quoi des missiles?
Alors des missiles, maintenant, bon, actuellement c'est des balles pour jouer au tennis. Ils l'ouvrent en deux et ils mettent des médicaments, de la drogue dedans, et ils l'envoient dans la cour de promenade. Alors bon, il y a des moments, c'est entouré de films plastiques, bon, il y a de l'alcool qui passe aussi par-dessus les murs. Et les jeunes du quartier, bon, de tous les coins d'Amiens, bon, peuvent venir puis ravitailler à l'intérieur de la prison en niveau drogue.
Mais alors, comment ils font pour récupérer à l'intérieur de la cour?
Mais disons que, bon, c'est bien calculé quand même leur système, parce que bon, ils savent que tel jour, à telle heure, ils sont en promenade. Et puis bon, ben, lors de la promenade, ils lancent les missiles. Et nous, bon, bien, on réussit à en récupérer quand même, parce que bon, si jamais on laisse tout passer, ça voudrait dire que la prison, c'est une passoire.
On arrive devant, on a passé sur le côté, on arrive devant la maison d'arrêt. Il y a des gens qui attendent sous un genre d'abribus, mais l'abribus, il est tourné vers le mur plutôt que d'être tourné vers la rue.
Ouais, ça, c'est les parloirs famille. Les gens se mettent là pour venir voir un membre de leur famille qui est incarcéré. Là. C'est la bulle d'entrée, c'est le sas de sécurité. L'agent, c'est lui qui gère les entrées et sorties de l'établissement.
Vous êtes parfois là dans la bulle, ouais, d'entrée.
Ça m'arrive d'être à ce poste, on tourne en permanence. Il y a quelques années, j'ai connaissé devant la maison d'arrêt d'Amiens, je prends l'exemple, on voyait un yacht passer tous les semaines, ou bien tous les mois. Maintenant, on l'envoie 3-4 tous les semaines.
Vous voyez des yachts passer de la maison d'arrêt?
Disons que lorsqu'on passe, bon, je vais prendre l'exemple, parce que quand on est à la porte principale, on regarde sur la voie publique, et on voit les camions passer. Et donc, on voit des bateaux, des super bateaux passer, et je dis qu'avant, bon, on envoyait deux par mois, maintenant tous les semaines il en passe. C'est qu'il y a des gens qui s'enrichissent quand même sur le dos de l'ouvrier.
Ses parents étaient ouvriers. Luc Rodi, gardien de prison, syndiqué à la CGT. Ses parents étaient des ouvriers. Il travaillait à Saint-Frère, c'est une grande boîte de textile à Amiens. Et puis textile, on sait ce que c'est devenu, plus de textile. Et voilà, et comme ça, il est devenu, il a bien fallu, il est devenu gardien de prison, d'abord à la Santé, à Paris, et puis il est revenu sur Amiens. Il a 45, 46 ans, il connaît parfaitement le métier, parfaitement la vie de l'intérieur. Il ne désespère pas de pouvoir faire quelque chose en contact permanent qu'il est avec ces hommes qui sont enfermés dans cette prison d'Amiens. Et les bateaux passent. Et qu'est-ce que c'est cette chanson qui disait quand je vois passer des bateaux, j'ai envie de me foutre à l'eau? Il y a une hantise. On avait déjà entendu ça de la bouche de gardiens et de surveillants. C'est décrocher un pendu. Décrocher un pendu. C'est-à-dire, bah oui, vous avez compris, ça arrive. Il y a une quantité croissante de suicides en prison, surtout chez les jeunes et surtout au début. On en parle toujours de loin, de la prison, en principe, avec des grands principes, ou bien on n'en parle pas du tout, ce qu'on essaye de faire le plus souvent, ce qu'on réussit très bien à faire le plus souvent. Ces gens-là sont aux premières lignes et ça vaut le coup de les écouter.
Alors pour ce qui est de la réinsertion par exemple. Alors la réinsertion, bon, moi en tant que surveillant, je crois pas à cette réinsertion, parce que bon, pour parler de réinsertion, il faut avoir les moyens. Les travailleurs sociaux n'ont pas du tout les moyens, parce que bon, nous, on se plaint, mais eux, ils sont encore plus à plaindre. Je vois à la maison d'arrêt d'Amiens, ils ont à peu près 200 détenus à s'occuper. Pour une seule personne.
C'est-à-dire un travailleur social suit 200 détenus.
À peu près 200 détenus. Alors voyez la charge de travail. En principe, il doit s'occuper de lui pour tout. Pour ses problèmes de réinsertion, c'est-à-dire le suivi, pour lui chercher du travail, pour lui faire faire son dossier de conditionnel et tout. Mais bon, ils ont une charge de travail immense, hein, les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux,
on va aller voir un verre. Vas-y, après vous. Donc on rentre, c'est le disque bleu, ça s'appelle, c'est pas loin de la maison d'arrêt. Merci. On va se mettre au fond plutôt. Bonjour.
Ouais, du café. Alors le disque bleu, ici qu'on est, il livre toute la presse à la maison d'arrêt. C'est eux qui lisent tous les journaux que la population pénale demande, c'est eux qui nous livrent.
Merci beaucoup même.
Même le tabac, il livre aussi.
Et donc sur la réinsertion, les détenus, quand ils sortent, la plupart, ils sortent comment?
Bon, on les voit, ils commencent, bon, il y en a certains, c'est la famille qui vient les chercher, mais bon, on les voit certains qui errent pendant un quart d'heure à une demi-heure pour savoir de quel côté ils s'en vont, parce qu'ils sont complètement déboussolés. Il n'y a personne qui les attend à l'extérieur. Et bien souvent, bon, ils nous disent, chef, bon, à bientôt, hein. Parce qu'ils disent, nous, on n'a pas rien, on peut pas retourner chez nous parce que nos parents nous ont mis dehors. Et puis bon, ben ils ont, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'accompagnement, et donc systématiquement, on le sait on va les revoir peu de temps après.
Hein. Ils considèrent ça presque comme leur deuxième maison.
Disons qu'il y en a certains, c'est leur seule maison. Et puis bon, en plus, ils sont connus par tous les surveillants, donc c'est leur milieu. Malheureusement, que ça ne devrait pas être, mais comment ça va? Ah oui, bon.
Vous vous connaissez?
Ah oui, mais très bien même. Bah oui, on a déjà discuté ensemble. Bon. Moi, surveillant, à l'extérieur, vous voyez, il me serre la main, on se serre la main, il n'y a pas de problème, il se dit bonjour.
C'est un ancien détenu.
C'est un ancien détenu. Mais bon, dès l'instant que le surveillant fait son travail correctement, il respecte la personne le respecte, on n'a aucun problème à l'extérieur.
Tout le monde le connaît dans le quartier, tout le monde lui dit bonjour au marché et tout, on sait tout ce qu'il habite derrière et tout, là, j'ai jamais eu de problème. Voilà.
Alors, donc, toi, tu es sorti de prison il y a combien de temps maintenant?
Là, il y a. Ça fait. Un an et demi.
Et quand t'es sorti de prison, t'es sorti avec quoi? On t'a fait des propositions
Déjà, j'y suis allé il y a 6 ans en prison. J'y étais, je suis sorti, je me suis dit, bon, je vais me réinsérer dans la société, être courageux à aller travailler. Je suis parti travailler. Hein, au moment où j'ai travaillé, les deux premières années, ça allait tranquillement, bien et tout. Au bout de 2 ans et demi, il y a le fixe qui commence, toutes les anciennes dettes et tout. On dit la réinsertion commence par... Au moins, ce ne serait pas, je ne demande pas à effacer les dettes, mais les échelonner.
Les dettes, c'est-à-dire
les amendes, les frais, tout ce qui est amende et tout ce qu'il y a eu derrière, on les a toujours.
C'est-à-dire que 2 ans après cette sortie de prison, il y a les dettes.
Dès qu'on commence à travailler, ils viennent juste à ce moment-là. Ils viennent pas avant. Tant qu'on ne travaille pas, on est insolvable. Pour eux, ça ne les intéresse pas. Mais dès qu'on travaille, Et c'est justement c'est au début de, où la personne comment travaille, où elle a besoin d'avoir du courage, d'avoir un minimum pour pouvoir s'acheter, se faire plaisir et avoir le courage de continuer, que là on lui tombe dessus. Au lieu d'avoir 6000 balles par mois, vous retrouvez avec 2000 balles par mois, des enfants, un loyer, des frais à payer, un jour ou l'autre, soit vous recommencez parce que.
Il te prenait combien, tous les mois?
Quasiment 3000 balles tous les mois. Donc
sur un revenu, tu faisais quoi? T'étais ouvrier?
7000 balles. J'étais ouvrier, je gagnais à peu près 7000 balles. Et donc, des gens qui ont toujours vécu dans un système un peu marginal, dès que ça va pas mal aller, on va aller rechercher dans le marginal.
C'est-à-dire qu'en clair, quand tu arrives plus à.
Il va falloir que je les récupère pour pouvoir faire vivre correctement ma famille décemment. Donc je vais aller faire du business, n'importe quelle connerie.
Et du trafic de shit.
Je mets tout le monde dans la merde, je me mets moi dans la merde, je mets ma famille dans la merde parce que je me retrouve en prison. Et voilà, et quand on va voir les huissiers, tout ça, s'expliquer pour eux, non, c'est la loi, il faut payer, point final, l'histoire est terminée. Voilà, de temps en temps, on peut en tomber sur un qui est compréhensif, qui va échelonner les dettes. Mais même en les échelonnant, on doit toujours les payer, et voilà, c'est ce que je reproche au système, c'est que remet les gens, mais remettons-les sur le bon rail. Si on regarde dans les prisons, depuis l'âge de 17, 18 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans, les surveillants revoient quasiment les mêmes. C'est un cercle.
C'est vrai, ça, vous voyez régulièrement les mêmes?
Mais disons que maintenant, oui, parce que la population pénale, on voit ça tourne tout le temps, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent à un certain moment. Et bien souvent, on leur demande pourquoi. Mais c'est vrai que, comme il dit, si jamais les douanes viennent leur chercher l'argent au bout d'un certain temps, c'est pas normal non plus. Il faut leur laisser le temps de se réinsérer.
Les douanes, pourquoi les douanes?
Mais parce que les douanes, c'est pour les amendes des produits stupéfiants. Parce que les amendes, il faut les payer. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à les payer, mais il faut des arrangements. Des gens qui ont des petits revenus, comme il dit, c'est vrai que je pense qu'on devra attendre le temps que la personne s'installe, qu'elle soit bien installée, et lui dire d'échelonner un peu, avoir des arrangements. Pas dire, on arrive, on prend 3000 francs tout de suite. Parce que c'est vrai que 3000 francs sans un salaire de 7000 francs, la personne ne peut pas vivre. C'est impossible avec des enfants, une famille. Et on peut comprendre que... Nous, c'est pour ça que bien souvent... On les retrouve en prison parce que, comme il dit, si jamais il nous manque de l'argent, il faut trouver l'argent. Ils font des bêtises. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent tout. Ils perdent leur travail. Ils remontent en prison. Et puis, c'est reparti pour la galère. Et nous, en tant que surveillants, ça fait des années, ça fait 25 ans, mais on voit que ça comme ça. Ça fait que ça.
Et alors, quand à peine c'est terminé?
Je me suis retrouvé tout seul. Regardez, on m'a dit, j'avais une mise à l'épreuve, là. Je l'ai reçu au bout de 2 ans, 3 mois avant qu'elle se termine. C'est normal.
C'est-à-dire, on met en place une mesure alternative à la détention qui consiste à dire, on va vous garder dehors, mais vous êtes suivi par un éducateur, on va mettre des choses en place pour vous. Et il a fallu que tu attendes 2 ans pour commencer à voir l'éducateur.
Au bout de un an et demi, j'étais convoqué par le juge. De là, il m'a dit que je vais être vu par un éducateur. Il a fallu encore 7-8 mois avant que l'éducateur, je le voie. Donc il y a vraiment eu un problème. On punit les gens par le temps, en les bloquant, en leur faisant que le temps s'arrête pour eux dans la prison. Mais à côté de ça, tout s'arrête.
Quand ils sortent dehors, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont aucun avenir devant eux. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils ont fait la prison, personne n'a pu les aider. Donc le temps s'est arrêté.
Article D189 du Code de procédure pénale. Assurer le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prendre toutes les mesures destinées à faciliter leur intégration dans la société.
Une personne qui n'a pas d'argent en prison, c'est la chose la plus horrible. La plus horrible. Le gars, il a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un type. Il lui dit, le type va lui dire, moi je te prête des sous. Je te cantine ce que tu veux, une paire de baskets, ceci, cela. Mais tu me dois tel service. Tu me portes mon téléphone, tu me portes ceci, tu me fais ceci, cela, cela. Et le gars, il va le faire.
Porter le téléphone, porter ceci, cela.
Il va prendre des risques. Des merdes, il le cache comme il veut. Il prend un portable, il le cache comme il veut. Lui, quand l'autre, il veut téléphoner, il va l'appeler par yo-yo, il va récupérer son portable.
Par yo-yo, c'est quoi yo-yo?
Par la fenêtre.
Le yo-yo, il est fabriqué avec une ficelle qui est faite avec soit du drap ou une couverture ou bien du fil. et ils mettent un gant de toilette au bout, une chaussette, et puis ça sert de yo-yo. Alors ça sert à passer le tout. Alors c'est-à-dire que
on passe cette chaussette à partir du fil, on la balance et on la passe d'une fenêtre à l'autre.
Oui, on balance et puis on passe d'une fenêtre à l'autre. Le système, comme il disait, du porteur. Bon, moi je l'ai constaté encore il y a pas longtemps. Il y avait un détenu qui a fait le transporteur pour un portable. Et puis bon, comme il n'a pas voulu dénoncer celui qu'il avait donné, bon, il a pris 45 jours de mitard.
Quand la drogue est lancée par-dessus le mur, à partir des missiles, dans des balles de tennis ou des choses comme ça.
C'est celui à qui ça appartient qui va le prendre.
C'est pas celui à qui ça appartient.
Ah non, jamais, jamais. Hein, il va trouver quelqu'un, il va lui dire tiens, je te donne un morceau, et hop, c'est toi qui le portes, c'est toi qui prends les risques. Et en cas de problème, moi, je suis là avec tout soupçon. Et le pauvre gars que le système n'a pas voulu aider, bah, lui, il se lance là-dedans parce qu'il faut qu'il vive. Il faut qu'il ait des cigarettes, il faut qu'il mange, il faut qu'il ait de la télé, donc il faut qu'il se démerde. Et donc, c'est comme partout, les gens en profitent. Il y en a qui ont les moyens, ils vont en profiter pour tout. Pour faire agresser un gars, pour n'importe quoi. Bah, si je veux une arme, je l'aurai. Je l'aurai. C'est trop facile. Déjà, quand je vois la prison la mienne, je me demande comment il n'y a déjà pas eu... C'est bizarre qu'il n'y ait jamais eu des surveillants qui se sont fait braquer. Ils ont de la chance.
Et nous, les surveillants, bon, actuellement, c'est ce qu'on craint le plus. Bon, les stupéfiants et tout, bon, on craint.
Mais en même
bon...
temps, est-ce que les stupéfiants, c'est pas un peu de l'huile dans les rouages? Les gens prennent des stupéfiants.
Si, parce que bon, de toute façon, ça passera toujours. Et puis, on sait, c'est un peu la tranquillité. Parce que le jour qu'il y aura, ça sera le point zéro, qu'il n'y aura vraiment plus rien qui traînera. Bon, ça sera, je pense que ça sera une bombe pour. Dans l'établissement. Mais bon, ça, c'est pas près d'arriver parce que bon, on en trouve de la drogue. Hein. De toute façon, le trois quarts du temps, même si jamais on les surveille, parce que bon, en promenade, ils sont surveillés, on n'arrive jamais à prendre en flagrant délit la personne par elle-même.
On envoie une dizaine de personnes, on se met tous autour du truc et il y en a un qui va le prendre. Celui qu'on comprendra le moins qui sera contrôlé. Et ça fait qu'après tout le monde se disperse, on sait pas où il est le truc, il va pas. Je peux même le prendre, le montrer devant le surveillant comme ça, la caméra, et à la fin je vais monter, j'aurai rien sur moi. C'est tout. C'est le jeu du chat à la souris.
Vous êtes combien à surveiller la cour dans ce cas-là?
On est tout seul.
Il y en a une personne pour surveiller la cour.
On est une seule personne, mais on est quand même des très bons observateurs. Ouais. On réussit à en prendre toujours un dans le lot quand même, qui est pas assez discret, puis que bon, qui se fait piéger.
Il y en a qui se font. On va pas aimer quelqu'un. On va s'arranger pour qu'il aille chercher le missile. Il y en a qui vont le dénoncer pour qu'il soit arrêté et que les autres passent. Parce qu'on l'aime pas, c'est tout. Parce qu'on sait qu'il a déjà dénoncé ou ceci. Il y a aussi des petites vengeances comme ça. Tout est possible. Un Parisien qui s'appelait Riyad, qui écoutait tout le temps la merde, qui insultait tout le temps tous les surveillants. Il était avec moi. Quand moi je suis arrivé, même j'étais malade, je lui avais vomi dessus. Je me rappelle, j'étais dans sa cellule, je lui avais vomi dessus parce que j'étais pas malade et tout. Et lui, un jour, il a insulté tout le temps les surveillants. Hein, et tout le monde, les surveillants ne l'aimaient pas. Et il y a eu un surveillant qui a été plus malin que les autres, il a pu courir le bruit à d'autres détenus de Beauvais ou de Creil, comme quoi il les avait dénoncés. Ça fait qu'il s'est retrouvé en promenade, ils lui sont tombés à 15 dessus, le surveillant il était à la rotonde, il avait ouvert la rotonde et il regardait comme ça. Après le directeur il est venu, il s'est mis à regarder pendant 5-10 minutes, et après il a un peu envoyé de brancard le chercher parce qu'il était à out.
Non, les rumeurs c'est ce qui fait le plus mal dans la prison, et la rumeur ça va très vite.
Personne n'est crédible, et qu'elle lance une rumeur, l'autre, elle va mourir. Elle va mourir. Et parce qu'après, en plus, ça suit de cellule en cellule. Puisque on est plus ou moins tous amis. Dans la même, quand on est dans un étage, on est souvent des amis. Ça veut dire que si moi j'ai un problème avec le surveillant, il a un problème qu'avec, pas seulement qu'avec moi. Il a un problème avec tout mon étage. Ça va vite. Ça fait qu'après, on lui fait une vie d'enfer. Et il y en a qui...
Comment vous faites pour lui faire une vie d'enfer?
Il faut savoir que les meilleurs yeux du chef d'établissement, c'est la population pénale. Voilà, parce qu'il y en a certains que, bon, ils envoient des courriers à la direction parce que c'est des courriers qui sont fermés et nous, on peut pas lire. Et puis, il y en a certains bon, qui vont raconter n'importe quoi. Et puis, bon, après, qu'est-ce qui se passe? La direction, ah, le surveillant, ah, il fait ça. Alors que ça peut être faux.
C'est faux, il y en a quatre.
Bon, la direction.
Nous, on va se mettre à quatre. Moi, je me dis, si j'envoie un courrier tout seul, on croira jamais. Mais si, moi qui suis dans cette cellule-là, j'envoie un courrier, lui qui est là-bas, on fait un système, éloigner les cellules. Quatre cellules qui se communiquent pas, entre elles, qui envoient un courrier, disons à peu près la même chose.
Qui dit quoi? Il peut dire quoi le courrier par exemple?
Oh, on l'a vu, il s'endormait. Oh, t'as vu l'autre, il s'endormait en lisant le courrier, ou voilà, il fait pas son travail. Des conneries comme ça, n'importe quelle connerie. Ça fait que le chef d'établissement, lui, il lit ça. Un, ça va. Deux, trois, quatre. Et ça se répète. Arrive un moment, on le voit plus dans l'étage.
Il paraît que ça existe encore, que l'on construit des prisons, et on a toujours dans la tête, être bien, et dans sa petite chaussette, madame n'aime pas qu'on joue de la trompette, alors on construit des prisons, et il faut bien punir les assassins,
comme sans moi, on n'a pas tout perdu. Et après, on jouera au football. On laissera crever les assassins. Et on mangera la part du défunt. Et on fera prospérer les prisons. Et mon petit gars, un jour sera promoteur. Et c'est pas comme cette bande de tueurs. On fera pour les musiciens. Et dans la go, le roi des prolos. On en fera et pour les parisiens. Et mon petit gars, t'es un politicien. Un enfant, aussi pour les enfants. Et pour un mot, attends dans le métro. Et pour mon chien, et pour les écrivains. Faut fermer tous ces assassins. Un enfant, aussi pour les pétins. Un cachot, pour les intellos. Un enfant, et pour les africains. Et c'est un troll dans les pays australes. Et qui se vint en tout ces assassins. Mon petit gars, elle passe à par plaisir.
Dialogue inattendu entre Luc Rodi, gardien de prison, et on n'est pas loin de la prison, Damien, une des 20 prisons les plus surchargées, les plus peuplées, surpeuplées de France. Et dans ce bistrot qui s'appelle le Disque Bleu, ben voilà, rencontre entre ce gardien de prison et les détenus, d'anciens détenus ou de futurs détenus. 70% des détenus de cette prison, comme de beaucoup de prisons en France, sont des récidivistes. Et je le rappelle, 85% de la population carcérale en France est d'origine, vient des quartiers déshérités et des milieux déshérités. C'est la prison des pauvres, la peine des pauvres et de pauvres peines que mènent ces gens, même si on éprouve une fascination toujours pour ce milieu du dedans, nous qui sommes dehors. Ce monde, ces mœurs, ça a fasciné beaucoup, beaucoup de monde. Il y a quelque chose qui nous attire toujours, toujours. Mais il faudrait que ça cesse, tout simplement, cet intérêt assez morbide pour des gens qui, en somme, souffrent de façon inutile. Bien sûr qu'il faut des sanctions. Si on veut des lois, et ben il faut les appliquer. Et si ces lois comportent des sanctions, il faut les accepter. Mais faut-il encore savoir quelles sanctions ? Je me souviens très bien, et vous vous en souvenez, les plus âgés d'entre vous, les aînés, se souviennent des luttes sur la peine de mort, les abolitionnistes et les autres. L'abolition de la peine de mort n'a en aucun cas augmenté le nombre de crimes en France. La prison est un jour, je pense que nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, parleront de nous en disant c'était le temps où il y avait encore des prisons. Je pense qu'un jour, on ouvrira, ou plutôt on fermera les prisons. En tout cas, ce à quoi on a complètement renoncé, c'est la réinsertion et c'est la réhabilitation. On a choisi l'industrie de l'incarcération, alors qu'on pourrait très très bien choisir l'industrie de la réinsertion. Il y a quelque chose de profondément idéologique dans tout cela, et on sait quels sont les choix du gouvernement actuel en la matière. On est toujours dans ce bistrot qui s'appelle le Disque Bleu à Amiens, et ce Disque Bleu ressemble un peu à ce cercle vicieux qui est dedans, dehors, dedans, dehors.
2, 3.
Bonjour,
ça va ?
Bonjour.
Bonjour.
Oh, je veux bien.
Deux.
Vous nous connaissez alors ?
Ça, j'ai fait 12 ans de prison en tout. On me connaît depuis déjà 12 ans. Ouais. Ouais. 12 années pour divers choses, j'ai fait plusieurs trucs. Mais la justice m'a jamais aidé. En sortant de prison, à chaque fois, ils m'ont laissé tomber. J'allais au comité de probation, c'est toujours la même chose. On ne trouvait pas de travail pour moi. On n'a jamais essayé de me réinsérer. C'est pour ça que je suis tombé autant. C'est pour ça que j'ai pris autant de 12 années. J'ai eu une trentaine de condamnations. J'ai été condamné 30 fois. Et sur 30 condamnations, jamais on a fait quelque chose pour moi. Le seul truc qu'on a fait, c'est m'envoyer à Pinel, c'est tout.
C'est-à-dire que quand vous sortiez de prison, derrière, il n'y avait pas de...
Il n'y avait rien, rien du tout, rien. Rien. Personne autour de moi, personne pour m'encadrer, personne... J'avais aucun diplôme, et avec mon CV, mes CV, tout ça que j'ai rapporté, tout ça, jamais quelqu'un est venu me tendre la main, jamais, jamais. Et la peine que j'ai eue, les peines que j'ai eues, c'était toujours des grosses peines. Des grosses peines, des grosses peines. On mettait des claques.
On a un exemple flagrant de réinsertion. Dès qu'ils sortent de prison, bon, ben, il n'y a rien. Et nous, les surveillants, quand on nous parle de réinsertion, ils le savent très bien, on ne va pas mentir, il n'y en a pas. Hein.
à tout point de vue, bon, il y en a quelques-uns qui s'en sont sortis d'eux-mêmes, mais c'est tout. Même, bon, pendant un certain temps, bon, mais les travailleurs sociaux, ils avaient même dénoncé les problèmes, parce que quand il y avait quelqu'un qui était indigent, même qui voulait sortir, il y avait même plus de tickets de bus à donner, même un peu d'argent, on pouvait même plus rien leur donner parce qu'il n'y en avait pas.
Ahmed, toi, quand tu sortais de prison, tu sortais avec quoi?
Avec rien. Avec rien.
T'avais des problèmes de toxicomanie à un moment?
Pendant une quinzaine d'années, j'en ai eu.
Et alors, par exemple, au niveau des soins en matière de toxicomanie, il y avait des soins dans la prison?
Ouais, mais le docteur est difficile. Hein. C'est pas un docteur psychiatre en même temps. Il n'est pas là pour vous aider, essayer de vous expliquer. Il est là pour vous jeter vos médicaments dans la figure et point final, on s'arrête là. Avec ses Subutex, avec ses Valium. Moi, je prenais juste du Subutex, je prenais pas de Valium. Parce que j'essayais déjà d'arrêter de boire. Je prenais du Subutex, là-bas en prison.
En fait, on file les médicaments, mais derrière, il n'y a pas de parole autour de tes
problèmes. Rien du tout. On est là, on vous fait asseoir dans une chaise. On vient vous poser le médicament dans les mains. Vous le prenez, après vous partez.
Alors que toi, t'avais besoin de discuter.
J'avais besoin de discuter à fond mes problèmes. Bah ouais. Bah là, je vois un psychiatre, là. Alors, une fois par mois, je vois un psychiatre. J'ai besoin de parler. J'avais besoin de parler. Et lui, il nous écoutait pas. En plus, c'est même pas lui qui donnait les médicaments. C'était les femmes.
Les infirmières,
ouais. C'était même pas lui. Alors, pour vous dire.
Ouais. Donc, c'était presque du sale service, si vous demandiez tant de Subutex.
Ouais.
Donc, ça facilitait le trafic
Là, ça pourrait faciliter le trafic, quoi.
Ça facilite les suicidaires. Il y a des gens qui vont, qui demandent des cachets, qui les entretiennent, qui les stockent. Ils vont même demander à d'autres détenus d'en prendre pour eux. Puis après, hop, ils les avalent tous d'un coup.
Ouais, moi, c'est depuis que je suis mineur, depuis l'âge de 15 ans, je vais en prison. La première fois que j'y étais, j'avais 15 ans. Vous croyez que le juge d'application des peines a fait quelque chose pour moi? Rien. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, en prison, j'ai pas arrêté. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai arrêté. Après, je me suis marié en prison. Ça va faire 3 ans que j'ai arrêté mes conneries parce que j'ai eu un enfant. Je l'ai eu en étant dehors, je l'ai eu. Mais je suis tombé en prison entre deux. Alors ma femme venait me voir enceinte en prison. Alors, le jour de la naissance de ma fille, ma petite fille, ils m'ont pas donné de permission pour aller la voir. Alors ça, je trouve ça dégueulasse. Pas de permission pour aller voir ma petite fille. Et j'étais à 3 mois de la libération. Faut pas déconner, de 15 ans jusqu'à 30 ans, j'ai fait des conneries. À 15 ans, juste l'application des peines, rien. 17 ans, rien. Rien, ils ont rien foutu pour moi, rien.
Et qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient dû faire pour toi?
Ben, m'aider à mettre, je sais pas, m'aider à faire un stage, m'aider à quelque chose, à des démarches, trucs, divers trucs, je sais pas, m'aider, être là. Ils voyaient bien que quelque chose n'allait pas envers moi, même à l'école, tout ça. Je foutais la merde, ça allait pas, je foutais le bordel. J'étais à l'école jusqu'en cinquième, jusqu'en quatrième. J'ai pas été loin à l'école. Me faire envoyer un psychiatre pour voir ce que j'avais comme problème. J'avais un tas de problèmes, problèmes familiaux. Mais ça, je ne peux pas en parler, ça.
T'as eu vu des éducateurs ou pas à l'intérieur de la maison d'arrêt?
Une fois un éducateur est venu.
T'as vu des éducateurs? T'as vu un éducateur une fois en 12 ans de prison?
Une fois j'ai vu un éducateur. Il était bien.
Je regarde s'ils sont présents et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, psychologues qui sont observés en permanence.
T'as pas une dentition qui est en très bon état?
J'ai été au dentiste en prison. Elles ont toutes sauté. Ça a été fait, mais à la va-vite. On m'a dit que j'aurais dû attendre d'être dehors pour les refaire complètement. Moi, je ne vais pas au dentiste parce que lui, il aurait pu faire du meilleur boulot. Mais il y a 1000 détenus derrière et lui, il a peu de temps. Il peut pas, déjà, pour prendre un rendez-vous, on met 2-3 mois.
Mais t'as dû avoir des rages de dents avec...
Oui, je me suis retrouvé avec des... Il a fallu que j'ai vraiment des rages terribles dedans pour qu'ils me prennent. Parce que sinon, il fallait que j'attende vraiment longtemps.
Et voilà le problème que nous, surveillants, on rencontre. Bien souvent, il y a des accrochages avec la population pénale. Parce que le détenu qui a mal aux dents... Bon, qui c'est l'interlocuteur qui est en face de lui? C'est le surveillant. Mais on est obligé de menacer pratiquement l'infirmerie pour avoir des médicaments ou voir le médecin, le dentiste.
Il m'arrive une rage de dents. Je demande au surveillant gentiment pour aller au dentiste. Ils me connaissent, ils vont voir le docteur. Jamais je m'énerve, ni rien et tout. Il est parti et tout. Une fois, deux fois, dans la même journée, j'avais vraiment très mal. Au bout de la troisième fois, j'appelle un surveillant. Ça, en 3 heures, je l'ai appelé 3 fois. Et il me dit qu'on doit m'appeler pour aller voir le dentiste et tout. Et il vient toujours pas. Il a fallu que je menace de dire quasiment le premier qui rentre dans ma cellule, je le massacre.
pour qu'au bout d'une demi-heure, le dentiste se déplace et m'appelle. Même quelqu'un de calme est obligé de menacer. Et puis, je menace quelqu'un qui n'a rien à voir avec... Je le sais très bien, quelque part au fond de moi, qui n'a rien à voir avec le problème. Mais je sais qu'en le menaçant lui, il va la répercuter au directeur.
C'est un jeu, c'est un cercle infernal. C'est pour ça que, bon, il y a des moments quand le détenu dit « Oui, chef, j'en ai marre, ça fait 3-4 fois, je l'ai dit au surveillant. » Et puis, il n'y a toujours rien. Mais nous, pourtant, on le dénonce. On le dit, on appelle l'infirmerie et tout. Mais au bout du compte, il n'y a rien. Ou bien si, le service médical va dire oui, mais il faut qu'il fasse un mot, il faut qu'il explique. Mais le détenu, bon, ça fait déjà X temps qu'il se plaint. Le temps de refaire un mot et puis que ça arrive au service médical, ben, il y a encore 2-3 jours de passé.
Un détenu va quand même se calmer, va pas trop en vouloir aux surveillants parce qu'on se connaît plus ou moins.
Alors, moi, je vais vous expliquer une chose. Il y a quelques temps, il y a eu, bon, c'était à peu près la dernière mutinerie, mais il y a déjà quelques années.
Ils avaient pris la maison d'arrêt d'assaut, enfin, qu'est-ce qu'ils...
Ouais, dans la cour de promenade. Ils étaient dans la cour de promenade, ils voulaient plus remonter. Alors donc, les CRS sont, la police, les CRS sont venus, intervenus et tout. Puis après, 2 jours après, le directeur a reçu un groupe de détenus. Et voilà la demande. Ils voulaient plus de frites. Bon, je dis, mais c'est pas possible. Si jamais on fait un mouvement pour avoir des frites, c'est pas possible. On peut pas faire un mouvement. Non, on fait un mouvement parce qu'on veut améliorer ses conditions d'hygiène. On fait, mais pas pour des frites uniquement, pour manger. Non. Alors le directeur a dit oui tout de suite. Ils ont eu des frites. Mais maintenant, tout en sachant que maintenant tout est pesé et tout, bon bénéfice, ils ont eu des frites comme ils voulaient pendant un mois ou deux. Et puis c'est tout. Et après c'est reparti. Mais le mouvement était cassé.
Voilà, monsieur. Maintenant, si on est à 700 personnes aujourd'hui pour une prison qui est de 300 personnes, la solution, c'est de construire des nouvelles prisons, alors?
Non. Il y a des peines de substitution pour certaines choses. C'est-à-dire, bon, ben, il faut développer les bracelets électroniques, les tiges, tout ça, parce que c'est la prison par elle-même, c'est pas une solution. Hein. On aura beau construire des millions de quelques prisons de plus, ça ne changera rien. Hein. On aura beau dire, oui, ben, tiens, on va construire une prison dans chaque ville, ça n'arrangera rien, même si on les remplit. Mais les gens, à un moment donné, vont sortir. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être des fauves. Bon, à un moment donné, il faut se poser la question, mais pourquoi il y a tant de gens en prison quand même? Comme Loss, c'est pareil, à Lille, on parle de fermer, au départ on disait on va fermer la maison d'arrêt de Loss pour construire ce quenin à côté, mais ce quenin est ouvert et la maison d'arrêt de Loss restera ouverte.
Donc finalement, on rajoute des nouvelles prisons à côté?
On dit qu'on ferme les vieilles prisons, et en réalité c'est faux. Les vieilles prisons existeront toujours, on va les rénover, on va donner un coup de peinture à droite, à gauche, mais les vieilles prisons existeront toujours. On a un manque de place trop important en France pour dire fermer ces vieilles prisons. La France qui bat tous les autres pays européens.
Et ça, vous n'êtes pas très fier de ce record alors?
Non, moi je trouve qu'on n'a pas à être fier parce que on aurait dû faire le nécessaire avant d'en arriver à ce record. Parce que bon, dire le record de plus d'incarcérés sur l'Europe, c'est la France. Bon,
vous voudriez pas une médaille pour ce record?
Non. Cette médaille-là, nous en tant que surveillants, on la veut pas. Non, je trouve que si jamais la société en aval aurait fait le nécessaire, bon, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Merci à Luc Rodi, c'était un reportage de François Ruffin. Merci à tous. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission durant 24 heures et poster des messages. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, le site non officiel de Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter aussi de nombreuses émissions de Là-bas si j'y suis et faire des commentaires. Il y a des auditeurs qui prennent beaucoup, beaucoup de plaisir et qui le font savoir à réécouter des archives de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Eric Morin et Alain Arnstam, c'est Koy Nguyen et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et Agnès Lebotte, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il y a également un mail à Là-bas si j'y suis qui est daniel.mermet@radiofrance.com.